cobuzz.com.
Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Jean Tuberry.
Bonjour.
Jean Tuberry, vous êtes à la tête de La Fenice depuis plus de deux décennies maintenant. La Fenice n'est pas la célèbre maison vénitienne, mais il y a quand même un rapport avec cette ville. C'est votre ensemble que vous avez fondé en 1990, axé au début essentiellement sur la musique italienne du XVIIe siècle, mais on verra qu'il n'y a pas que ça dans la vie de La Fenice. Vous serez l'un des participants de la première édition du Festival Paris Baroque, et le concert que vous donnerez aura lieu donc le 2 décembre à 16h30 en l'église Saint-Louis-en-Lille. Vous ne serez pas seul avec votre ensemble, puisqu'il y aura également Yann Van Elsacker, pour un programme intitulé Weihnachts Mysterien. Vous allez nous expliquer un petit peu ce qu'il y a dans ce programme, comment vous l'avez concocté. Alors j'imagine que pour vous, quand il y a un nouveau festival de baroque qui naît, dans ces périodes un peu de crise et autres, c'est toujours plutôt bon signe, non ?
Ah, c'est très bon signe, en effet. Ce sont de jeunes organisateurs qui ont fait le pari, en effet, de ce nouveau festival. Paris Baroque, c'est tout à fait bien nommé, sachant que l'offre sur Paris, bien sûr, est phénoménale. Nous, en tant que musiciens donc consacrés à la musique baroque, c'est vrai qu'on avait quelques salles. On se produit régulièrement aussi à la Cité de la Musique, ici, mais en plus grand effectif ou dans d'autres cadres. Mais c'est un grand plaisir, néanmoins, de pouvoir donner, par exemple, la musique sacrée dans une église avec une certaine jauge. Ce sera l'église Saint-Louis-en-Lille, et nous sommes ravis de faire partie de la première édition, d'autant plus qu'il s'agit d'un concert que nous donnerons avec notre vieux complice Jan van Elsacker, donc ce ténor flamand qui a, je pense, le vent en poupe à juste titre, parce que c'est un des évangélistes les plus prisés, par exemple, pour les patients de Bach. Et nous donnerons avec lui un programme autour de la génération des pères de la musique allemande, cette génération que l'on a intitulée les pères de la musique allemande. Donc,
pas que les plus connus, d'ailleurs, ça va aussi bien de certains qui sont effectivement encore dans la tête des passionnés de cette période, que ce soit Buxtehude ou Schütz, mais il y a aussi des compositeurs moins, soit oubliés,
voilà,
soit peu
enregistrés. Tout à fait. Donc Schütz, bien sûr, Buxtehude, bien sûr, mais des gens moins connus comme Bernhardt ou des Sommer ou encore Furch, des noms comme ça qui ne nous disent pas grand-chose et pourtant de la très grande musique. C'est cette musique qui a retrouvé un second souffle après la guerre de 30 ans, en 1648. On sait que la musique a beaucoup pâti de cette terrible guerre qui a sévi en Allemagne pendant trois décennies. Et par la suite, eh bien, la musique a repris un second souffle, et Heinrich Schütz, qui n'était plus tout jeune à cette époque-là, qui avait déjà plus de 60 ans, en fait, est reparti sur le style concertant tel que les Italiens le lui avaient enseigné,
que ce soit
Gabrielli,
que ce
soit Monteverdi.
De souligner le lien, enfin l'importance, comment la musique italienne a pu influencer également.
Tout à fait. Donc il y a deux aspects dans cette musique-là. Il y a le choral, la tradition du choral luthérien, qui est très forte, le choral qui est un petit peu le ciment de cette musique, ou bien la trame, véritablement la trame mélodique, au sens propre du terme. Et puis il y a toutes les figuren, ou figuralitaires, comme les appellent les Allemands, donc toute cette ornementation issue de ce qu'on appelle le style concertato, dans lequel les instruments vont se concerter avec la voix. Un style qui est issu de l'Italie vénitienne, entre autres, de Monteverdi, que Schütz a pu rencontrer à Venise. Et ce style concertato va véritablement inonder toute l'Allemagne, effectivement, dans la génération des Schütz jusqu'à Buxtehude. Et donc, c'est cette confrontation des deux traditions qui est extrêmement intéressante et qui donne une musique à la fois très virtuose, très faste, mais aussi extrêmement dense au niveau spirituel et émotionnel.
Comment on construit un programme entre, comme vous l'avez dit, des noms plus connus que d'autres? Est-ce qu'on essaye évidemment d'avoir une unité globale? Comment vous avez travaillé avec Yann Van Elsacker sur ça? Comment c'est construit pour arriver finalement presque une histoire, en fait.
Oui, alors tout à fait, c'est le mot est juste, une histoire, c'est en fait, on va s'attacher à restituer l'histoire de la nativité, donc c'est pas bien compliqué, il suffit pratiquement d'ouvrir. En l'occurrence, il s'agit de l'évangile selon Saint Luc qui va relater l'histoire de la nativité, et les Allemands ont repris cette histoire à travers ce qu'ils vont appeler le culte des mystères, Mysterien, donc les mystères glorieux pour Pâques, les mystères douloureux pour la passion et les mystères joyeux pour la nativité. Donc on va entendre tous ces mystères joyeux qui partent depuis l'annonciation de l'ange Gabriel qui va être mise en musique par Bieber, mais cette fois-ci mise en musique instrumentalement, c'est-à-dire c'est le violon qui va représenter l'ange avec tout le langage rhétorique propre aux Allemands et aux Autrichiens aussi, en l'occurrence avec Heinrich Franz von Bieber. Et puis on aura donc le Magnificat de Schütz dans lequel on va faire intervenir Schütz va faire intervenir les violons, les cornets, les flûtes, avec leur charge émotionnelle et leur charge symbolique. On aura donc la nativité elle-même avec un Currite Pastores, Curé Berger, écrit par Christoph Bernhardt, lui-même élève de Heinrich Schütz. Et puis on conclura notre soirée avec les psaumes jubilatoires, en fait, tels qu'ils ont écrit la génération d'après, avec les Buxtehude et autres Nikolaus Bruns. Bruns, par exemple, c'est un nom qui parle assez peu, malheureusement. Il est décédé très jeune, à l'âge de 27 ans, c'est-à-dire qu'il a écrit assez peu de musique vocale, mais beaucoup de musique pour orgue, que connaissent bien les organistes. Nous aurons la chance d'entendre d'ailleurs sa musique pour orgue sur le bel instrument de Saint-Louis-en-Lille ce dimanche de décembre. D'ailleurs dimanche, qui est le premier dimanche de l'Avent, donc Adventus, de l'événement. Quelque part, nous nous sommes insérés dans cette programmation par rapport aussi à ce qu'est l'histoire de la nativité. Donc Noël aujourd'hui, c'est une grande fête populaire. C'est bien de rappeler un petit peu de quelle histoire il s'agit précisément.
Quelle valeur musicale vous donnez aux pièces de ce programme ?
Alors, la difficulté, elle est là, c'est-à-dire c'est une chose de retrouver les pièces qui vont correspondre à tel ou tel texte, c'est une autre chose encore de retrouver les pièces qui vont avoir la qualité compositionnelle, musicale, notamment quand on va taper dans les compositeurs moins connus. Alors là, effectivement, on a parfois un peu de déchets, c'est-à-dire on a de la musique plus rationnelle ou plus fonctionnelle, en fait, de la musique qui était prévue pour tel ou tel office, sans avoir la touche de génie que l'on a assez systématiquement avec les grands noms. Donc notre travail, c'est de faire ce tri qualitatif de manière à ne donner en public que la musique qui en vaut vraiment la peine encore plus de 3 siècles plus tard.
Thank you.
Et aussi, j'imagine, l'intérêt, parce que les modes, on se rend compte, se déroulent partout, même dans la musique. On sait qu'il y a des compositeurs soudainement qui reviennent, d'autres qui sont complètement oubliés, voire négligés, alors qu'ils ont quand même une importance. D'ailleurs, dans votre travail en général, pas juste sur ce concert-là, quelle part, justement, vous donnez à toutes ces recherches, le travail avec les musicologues, justement, faire le tri, entre, comme vous l'avez dit, entre le déchet et pas, ou même tout à coup, remettre vraiment en avant des compositeurs, voire des œuvres uniquement, qui vous semblent essentielles, mais qui sont complètement oubliées, voire jamais enregistrées.
Oui, voilà, vous avez bien cerné le problème. Il me semble important de continuer à restituer les grands chefs-d'œuvre des grands compositeurs géniaux. Nous allons donner, par exemple, tout autre chose. Ce mois de décembre, nous allons donner le King Arthur de Henry Purcell. Bien, voilà, ça fait partie des monuments qui ne sont plus à redécouvrir, quand bien même on peut avoir une lecture sous un autre éclairage. En ce qui me concerne, il me semble passionnant de découvrir les œuvres, découvrir les compositeurs. Là, par exemple, nous sommes, il est midi, et bien cet après-midi, je vais la passer à la BN, profiter de mon passage sur Paris pour aller chercher des œuvres de compositeurs assez méconnus, un certain Urban Lott, par exemple, qui fut édité à Strasbourg en 1627, dont on ne sait plus rien. Et c'est une œuvre que j'ai l'intention de placer dans un programme que nous donnerons prochainement pour le Collège des Bernardins auquel nous produisons au mois de mars. Donc on voit qu'on a une activité parisienne finalement relativement chargée avec en conclusion de cette année scolaire, on va dire 2013, notre présence à la Cité de la Musique autour d'un programme Monteverdi-Gabrielli.
Puis toujours dans ce domaine, vous aimez aussi, c'est parfois donner effectivement un autre éclairage sur des œuvres parfois connues, comme ce que vous aviez fait avec le Tédéum de Charpentier, avec qui était un peu la première version avec trompette baroque sans trou, sur deux choses aussi, pas uniquement, c'est-à-dire faut amener des œuvres différemment et en même temps défricher, comme vous venez de le dire, avec ce que vous allez faire cet après-midi.
Oui,
à la BN.
Oui, tout à fait. Oui, alors c'est amusant que vous parliez de cette anecdote. C'est vrai que, par exemple, en ce qui concerne la musique baroque, il y a un instrument qui reste assez énigmatique, c'est cette trompette naturelle, sans trou, c'est-à-dire c'est vraiment un tube dans lequel on souffle et on essaie de jouer une gamme diatonique alors que l'instrument ne s'y prête pas vraiment. Donc il y a une sorte de pari, là aussi, un pari baroque à relever. Et en l'occurrence, j'ai eu la chance de travailler avec Jean-François Madeuf, qui est un petit peu un des pionniers en matière de trompette baroque sans trou, et nous avons pu enregistrer le Tédéum de Charpentier avec cet instrument. Cela dit, en ce qui me concerne, je ne suis pas du tout intégriste en ce qui concerne le choix des instruments, et je travaille aussi volontiers avec des gens qui vont percer un trou ou deux sur leur trompette pour avoir un autre résultat, une autre aisance. Je pense qu'il faut faire preuve d'une certaine ouverture d'esprit tout en continuant cette recherche qui est passionnante et qui donne au mouvement de la musique ancienne toute sa justification de nos jours au XXIe siècle.
Par rapport justement à ça, qu'est-ce qui vous attirait au début dans la musique italienne du XVIIe? C'était aussi toute cette part de liberté. Qu'est-ce qui vous a fasciné au début quand vous avez lancé
la... La page blanche qui s'ouvre autour des années 1600, qui s'ouvre pour le compositeur, bien sûr, mais également pour l'interprète, parce qu'il y a une marge de manœuvre en ce qui concerne, par exemple, la pratique ornementale qui est phénoménale. En fait, quand on ouvre les traités justement d'improvisation, d'ornementation de cette époque-là, on se rend compte qu'on en est au béaba de nos jours et que les grands professionnels que nous sommes censés être seraient sans doute de petits étudiants auprès des grands maîtres de l'époque. Donc c'est assez passionnant de se constater qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour les générations actuelles et futures.
Cette liberté, elle a été facile à agripper, j'allais dire, quand vous avez commencé, vous êtes engagé dans cette carrière de musicien, quand vous avez étudié, etc. Comment on y vient? Est-ce que vous avez senti des étapes ou une rencontre avec un maître en particulier, quelque chose qui vous a vraiment... mis plus à l'aise, ou vous avez fait maîtriser votre art de manière plus sûre?
Déjà, j'ai eu la chance de naître à Toulouse, la belle ville rose. Eh bien, à Toulouse, on a eu donc les sacs-boutiers. Voilà, on a eu les sacs-boutiers de Toulouse qui ont été les premiers à jouer notre instrument difficile, que le cornet ou cornet à bouquin. Ensuite, je me suis rendu à Bâle, où j'ai eu la chance de rencontrer Bruce Dickey, un autre pionnier de cet instrument, mais également les grands Jordi Savall, René Jacobs, la regrettée Montserrat Figueras, dont j'ai beaucoup appris. Voilà, tous ces gens-là ont beaucoup compté, ce ne furent pas les seuls, également les Franz Brüggen et leurs élèves en Hollande. Je me suis rendu pendant quelques années en tant que jeune étudiant. Quant à la liberté à prendre, c'est toujours une sorte de conflit entre une tradition instaurée et puis la liberté que l'on souhaite prendre en tant que jeune adulte pour se démarquer de la tradition ou de la génération précédente.
Couper le cordon.
Voilà, il s'agit de couper le cordon, sinon de tuer le père. Et en l'occurrence, il est vrai que le cornet à bouquin est un instrument qui a été retrouvé, qui a été redécouvert et rejoué il y a seulement quelques décennies. Donc la tradition n'est pas encore très forte. Alors c'est vrai qu'il y avait peut-être une place à prendre. En tout cas, chaque musicien qui arrive à jouer de cet instrument peut lui inculquer sa personnalité et sa vision des choses. Donc nous sommes plusieurs musiciens de notre génération. Dans ce cas, j'ai beaucoup joué avec William Dongua, par exemple, à l'origine de l'ensemble La Fenice. On a rejoué encore ensemble récemment autour d'un programme Gabrielli, Schütz. Voilà, donc William a fait une autre démarche et est arrivé à d'autres résultats. Et derrière nous, il y a encore une nouvelle génération qui propose encore autre chose. Donc ça me semble assez passionnant autour de cet instrument.
Comment on explique justement, parce que ce cornet à bouquin, c'est quand même un instrument avant le plus prisé à la fin de la Renaissance, d'instruments comme ça qui sont oubliés, complètement négligés ou totalement... Comment on explique ce genre de situation ?
Eh bien, le cornet à bouquin, c'est un peu l'histoire du dinosaure, peut-être. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'était plus apte à s'adapter au milieu dans lequel il vivait. Gardons l'hypothèse en ce qui concerne les dinosaures, parce qu'on ne sait pas vraiment comment ça s'est passé. En ce qui concerne le cornet à bouquin, il n'a plus été apte de vivre dans le milieu dans lequel on lui imposait de respirer. À savoir que la musique pour violon était devenue trop violonistique pour lui. Cette musique qui était à l'origine soit pour violon soit pour cornet avec les contemporains de Monteverdi était devenu trop idiomatique pour que le cornet puisse la jouer, et puis on l'a remplacé par plusieurs instruments. En fait, il n'y a pas eu un instrument qui a pu remplacer cet instrument, qui était capable de rivaliser avec le violon, d'imiter la voix humaine, d'avoir la puissance de la trompette, l'agilité de la flûte, la flexibilité timbrique d'une clarinette ou d'un hautbois. Eh bien, ce sont tous ces instruments qui l'ont remplacé, c'est-à-dire la trompette, le hautbois, la clarinette qui est arrivée au XVIIIe siècle, le cor. Tous ces instruments ont pris une partie du répertoire du cornet à bouquin qui n'était plus apte à jouer la musique moderne du XVIIIe siècle.
Qu'est-ce qui vous avait poussé à fonder la Fenice en 90? C'était un hasard, un accident, ou il y avait vraiment une volonté avec une feuille de route bien précise?
À cette époque, vous savez, on a 25 ans, on sort de l'école, j'allais dire, oui, de la Scola, donc c'était Scola Cantorum. Cette musique vous parle vraiment, on trouve les gens avec qui on a de vraies affinités musicales. Je parlais de William Dongua, Jean Markheim par exemple, qui a fondé son concerto soir, avec qui on continue encore à jouer ensemble, et bien d'autres. Et bien, on était quelques passionnés par cette musique-là. Donc il nous semblait tout naturel de faire revivre cette musique, de redécouvrir certaines pièces. Par exemple, nous avons enregistré d'emblée la musique de Maurizio Cazzati, un des grands compositeurs bolognais du XVIIe siècle. Nous avons enregistré le Requiem de ce Cazzati en compagnie de nos complice d'alors l'ensemble Jeannequin, dirigé par Dominique Wyss. Des événements donc marquants dans la vie d'un jeune musicien qui termine ses études, d'autant plus que j'ai eu la chance à la sortie de ses études, en fait, d'être engagé en tant que professeur au Conservatoire de Paris, qui n'avait pas encore sa classe de cornet. Donc j'ai pu confronter, ma pratique de concertiste avec celle d'enseignant, ce qui m'a permis un enrichissement, je pense, décisif au cours de ce début de carrière.
Jauchtet Gott alle Lande, Lob singet zu Ehren seinen Namen. Rühmet ihn herrlich, rühmet ihn herrlich, rühmet ihn herrlich, alle Land gütig war. Und Lob singet ihr,
ihr Letzte und ihr Lebendige, ihr Tod war. Seele, Seele, dir ist lebendig, lebendig, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und hat die Schlüssel der Hölle und des Todes, und des Todes.
Est-ce que vous aviez des ensembles qui étaient un petit peu des modèles pour cette Fenice naissante? Peut-être pas obligatoirement dans le répertoire, mais dans le fonctionnement, dans la façon dont il proposait la musique.
Oui, des ensembles et des maîtres, des maîtres à penser, des maîtres à jouer. J'ai parlé bien sûr des Jordi Savall, René Jacobs, avec qui j'ai eu la chance de donner les premiers opéras italiens qu'il ait pu donner dans les années 90. Depuis, c'est devenu un peu la référence, et grâce à lui, maintenant, on ressort moult opéras de Cavalli, Cesti et autres. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui a eu la folle idée d'aller découvrir ces compositeurs dont on ne savait rien il y a plus de 20 ans de cela. Et puis, il y a eu les gens dans la génération précédente, les Harnoncourt, bien sûr, mais aussi, en fait, par exemple, Reinhard Goebel, qui s'est intéressé très tôt au répertoire pour violon et qui a livré un enregistrement splendide dans les années 80, quelque chose qui a peut-être disparu depuis le passage du disque noir au CD, mais ça a été voilà, ce genre de découverte qui vous conforte dans votre attitude et sur votre voix. Il y en a eu bien d'autres, en fait, au niveau vocal, je parlais de Montserrat Figueras, qui a été un modèle pour moi, elle ne fut pas la seule. Un John Elwes, avec qui on a travaillé au tout début, fut aussi un maître en pensée en la matière. Il me semble important justement d'avoir ce foisonnement, cette multitude de rencontres dont on a pu profiter à travers toute l'Europe de la musique ancienne et baroque pour forger, pour suivre sa voix, je dirais, forger son instrument. Voilà, c'est vrai que ça a été autant de rencontres que parfois dont je regrette l'absence. C'est-à-dire que de nos jours, je me consacre à l'ensemble à Fenice et j'ai moins l'occasion d'être, je n'ai plus du tout d'ailleurs l'occasion d'être dirigé par tel ou tel chef. Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris à l'époque. Bon, je pense qu'il y a des pages à tourner à un moment de sa vie et donc je suis ravi du passé qu'on a pu avoir pendant les deux premières décennies de l'ensemble à Fenice et nous jetons encore perdu dans cette troisième décennie. Et qui s'avère également extrêmement riche.
Alors ces deux décennies aussi parsemées d'enregistrements pour des labels assez divers, que ce soit Richard Carr, Alpha, Accent, etc. Quelle valeur vous donnez aux enregistrements? C'est-à-dire ce qui va rester aussi bien au niveau du choix des œuvres que du moment où de les enregistrer? Comment vous fonctionnez par rapport à l'enregistrement?
En ce qui me concerne, je suis un musicien assez frustré par l'enregistrement parce que je n'y trouve jamais l'émotion que l'on peut restituer au concert. C'est peut-être une banalité de dire cela, mais je pense qu'il y a de jeunes collègues qui sont peut-être arrivés plus près du but. C'est-à-dire, nous avons beaucoup enregistré Avec le recul, je me dis qu'on a enregistré peut-être un peu trop vite, un peu trop tôt. Bien sûr, c'est aussi normal. Donc la maturation se fait, puis on voudrait refaire ceci, cela. Donc moi-même, je n'écoute plus du tout mes enregistrements, bien sûr. Alors je ne sais pas ce qu'il en restera. Ça, ce n'est pas à moi le dire. Je pense que c'est une pierre qui est posée sur le chemin, comme ça, de la découverte d'un répertoire. Je pense que notre série, L'Héritage de Monteverdi, avec ses 7 enregistrements pour Richard Carr, n'est pas non plus anodine dans la découverte de ce répertoire. Mais je pense aussi qu'on peut faire bien, bien différemment et peut-être bien mieux. J'étais ravi de pouvoir contribuer à cette évolution des choses. Et là, nous nous consacrons parfois d'autres répertoires. Je parlais de Purcell, par exemple, que nous donnons très régulièrement, notamment au Festival de musique ancienne de Lyon. Nous serons au cours de ce mois de décembre, ou encore au Festival d'Uzès. Donc voilà, d'autres horizons s'ouvrent, et c'est normal, à l'approche de la cinquantaine, ma foi. On a d'autres envies que quand on a 25 ans, quand on sort de l'école.
Quel regard vous portez sur le public baroque depuis 20-25 ans?
Alors, c'était un public peut-être très ciblé, un public de connaisseurs, et on s'est rendu compte de fil en aiguille que ce public à la fois est resté jeune, ça c'est important, et nous tâchons nous-mêmes, en tant qu'ensemble à Phoenix, de le rajeunir avec notre résidence à Auxerre, dans Lyon, en Bourgogne. Nous avons la chance donc d'avoir été accueillis par la ville d'Auxerre, son théâtre, et nous avons des opérations pédagogiques qui nous permettent de confronter cette musique au tout jeune public. Bon, ça c'est un petit peu le cahier des charges que nous sommes donnés en tant qu'ensemble à Phoenix. Et puis en parcourant les festivals, bien sûr, il y a bien des publics différents en fonction des salles dans lesquelles on va jouer. Mais il me semble constater réellement que cette musique baroque, qui est quand même très, je dirais, facile au niveau de son accès, de son immédiateté, a conquis un public de plus en plus large au niveau des différentes tranches d'âge, également au niveau des différentes couches sociales. Là, nous avons la chance de donner, par exemple, un spectacle avec des danseurs et des instruments baroques auprès des jeunes de quartiers défavorisés. Et on se rend compte que ces jeunes qui sont censés être très turbulents et impossibles à maîtriser pendant une heure vont rester sages comme des images pendant toute la durée du spectacle, parce qu'ils découvrent un langage, ils découvrent le caractère intemporel et universel de cette musique-là, ils découvrent aussi des musiciens live. On se rend compte que la musique a encore un langage à livrer qui va au-delà des éventuelles polémiques de musique baroque avec sur instruments d'époque ou autre. On se rend compte qu'il y a un caractère universel et intemporel de cette musique-là qui est très touchant, et c'est un peu dans cette direction-là que nous travaillons avec l'ensemble La Fenice.
Alors l'enseignement, c'est quelque chose que vous pratiquez depuis pas mal de temps aussi. C'est arrivé de manière naturelle, c'était un besoin, une envie, un hasard?
Alors c'est arrivé de manière assez naturelle et impromptue, je dirais. En effet, j'ai eu la chance d'être nommé à l'âge de 26 ans au Conservatoire de Paris, c'était assez rare, du fait que la classe de Corneille à Bouquin n'avait pas été créée. Cette expérience m'a beaucoup servi, beaucoup profité. Le contact avec les jeunes musiciens, qu'ils aient été cornettistes, chanteurs, violonistes. J'ai eu la chance, par exemple, de donner les premiers cours d'ornementation à Philippe Jarouski, et ma foi, c'est une grande fierté que de voir le parcours qu'il a connu depuis. Puis, entre-temps, j'ai été accueilli par d'autres institutions, soit en tant que professeur de masterclass, ou bien en tant que professeur d'ornementation improvisé, par exemple, au Conservatoire de Bruxelles, où j'enseigne régulièrement, ou encore au Conservatoire supérieur de Lyon, dont j'ai repris la classe de Corneille à Bouquin, la succession de mon premier professeur Jean-Pierre Cagnac, ainsi que de William Dongois, qui a laissé cette classe au profit de la classe du Conservatoire de Genève. Voilà, donc l'enseignement fait partie de ma vie de manière inhérente et extrêmement riche, et cette confrontation avec la remise en question qui est celle des jeunes musiciens me semble essentielle en fait.
Quels sont les projets sur lesquels vous travaillez actuellement, que ce soit à la scène ou au disque avec votre ensemble?
Alors donc nous allons partir maintenant sur ce mois de décembre assez riche. Nous allons partir après le Paris Baroque, nous serons à Monaco autour d'un programme de musique franco-espagnole, un programme de Noël intitulé La Noche Buena, donc la Sainte Nuit en espagnol, auprès de Claire Le Filiatre, avec laquelle nous produisons régulièrement. Nous serons par la suite à Lyon avec le King Arthur, donc de Purcell, tout autre chose. Puis nous reviendrons sur Auxerre avec Jan van Elsacker pour redonner notre programme de musique allemande. Seront aux Beaux-Arts, par exemple, aux Beaux-Arts de Bruxelles cet hiver, autour d'un nouveau programme consacré à la Porta Orientalis, la Porte de l'Orient. Donc, la manière dont Venise a accueilli toutes ces influences venues de l'Orient, telles qu'on les constate dans l'art pictural ou l'art visuel de cette époque, et telles qu'on les décèle dans la musique. Et il m'a semblé intéressant de faire un programme autour de cette Venise orientale du XVIIe siècle. Et puis, nous poursuivons notre année 2013, qui est déjà bien remplie, avec différents programmes que nous reprenons ou que nous créerons pour la circonstance, des programmes que nous avons enregistrés, comme le Camino de Santiago, par exemple, avec Ariane Saval, ou des programmes que nous avons donnés et qui sortiront prochainement en CD, comme par exemple un album consacré à la musique de Henry Purcell, intitulé Serenading Songs, donc les chansons de sérénade de Henry Purcell auprès de sa musique instrumentale, toujours aussi géniale, que nous avons donnée à l'occasion en 2009 pour le tricentenaire de sa naissance.
Bien, donc je rappelle Jean Tubéry que vous serez avec La Fenice au festival Paris Baroque le 2 décembre à 16h30 en l'église Saint-Louis en Lille, accompagné par Jan van Elsacker. Merci Jean Tubéry.
Merci. La Fenice qui accompagnera Jan van Elsacker, ouais, peut-être, et avec le grand plaisir si c'est lui qui nous accompagne de temps en temps quand il chante certains chorales et pleins chants. Merci à vous.
www.cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.